avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, un peu de légèreté, un peu de créativité, histoire d'ouvrir la fenêtre, de respirer, de rire. 7 milliards de voisins et toutes les tendances de la mode, pas seulement celles que l'on veut vous vendre, les voisins, celles qui parlent de vous, vos coups de cœur et de fantaisie, avec notre partenaire, le magazine Brune. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel,
vous revenez...
bonjour tous les voisins et voisines.
Et vous revenez d'Abidjan et de Ouaga, et à nouveau Abidjan et demain Dakar.
Oui, tout à fait, pour la mode et puis aussi un petit peu pour l'économie, mais beaucoup de choses se passent sur le continent. L'Afrique de l'Ouest bouge énormément, il y a des défilés toutes les semaines jusqu'à la fin décembre.
Des défilés de mode toutes les semaines sur le continent ouest-africain jusqu'à la fin de l'année, là ?
Ah oui, c'est terrible. Oui. Le week-end
c'est
du
terrible boulot pour vous.
Ben oui, parce qu'en fait, il faut sauter d'un pays à l'autre avec des problèmes d'avion, avec des heures d'avion. Enfin bon, c'est pas évident. Mais il faut savoir que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. À Cotonou, Lomé, Abidjan, Dakar... tout le mois de décembre.
Vous avez des découvertes à nous raconter. Un coup de cœur, là, à chaud, allez, comme ça.
Alors, un coup de cœur, c'est une jeune Ivoirienne qui s'appelle Lulu Ngueta, qui a fait un défilé à Ouaga dans le cadre des folies de mode lancées par Sébastien Bazemo, qui a eu un peps incroyable, beaucoup de talent, qui mélange du jean, du pagne traditionnel, et qui fait un produit qui est vraiment international. Elle est très timide, très réservée, mais c'est très, très, très sympathique.
Et quand vous dites du pagne, évidemment, il y a du wax dans l'histoire.
Il y a du wax, mais il y a aussi du pagne traditionnel. Et puis surtout, elle a des coupes internationales dans lesquelles toutes les femmes vraiment peuvent se reconnaître.
Et bien, ça tombe bien. Ce sont des sujets que nous allons brasser avec vous, Marie-Jeanne. Également dans le studio, la gazelle, Karima Peroni.
Bonjour.
Je vous appelle la gazelle, c'est logique. Journaliste pour Gazelle Magazine. Exactement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un collab sur la beauté orientale, Karima. Emma Peroni, qui peut répondre à peu près à toutes les questions les plus techniques.
Normalement.
sur la beauté. Quand je vous vois le matin en studio, carrément, moi j'ai toujours l'impression d'arriver en pyjama à côté. Mais bon, Chaye Chénin, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes fondatrice du site Nothing But The Wax. Rien que le wax en français, c'était un blog au départ.
Oui.
C'est en train de devenir un média à part entière. Ça sera lancé début décembre, dans quelques jours.
Dans quelques jours.
Maintenant, vous êtes déjà sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avec une fierté au départ, le wax qui raconte beaucoup de choses du continent, votre continent d'ailleurs. Vous êtes franco-ivoirienne.
C'est ça.
C'est ça. Objet de consommation banal, le wax, mais aussi signe du renouveau de l'identité africaine, très prisé par les jeunes. On peut le comprendre quand on lit vos messages sur Facebook, parce qu'on a lancé le débat, évidemment, sur le wax qui côtoie maintenant le jean, se transforme aussi au gré des humeurs. C'est un tissu imprimé pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Comment on pourrait définir le wax en une phrase, Marie-Jeanne, l'experte ?
Alors en fait, c'est un tissu imprimé avec des couleurs assez denses et qui est laqué en général. Donc vous avez différentes catégories de wax. Donc il est laqué avec une cire qui lui permet d'avoir une durabilité
un
plus importante.
Glacé.
Et voilà, et il est glacé. Voilà,
en fait. Il ne faut pas trop le laver. Les voisins, les voisines, appelez-nous pour nous dire quelle est la place du wax, ce tissu imprimé dans votre vie. Est-il compatible avec la mondialisation de la mode? Comment aimez-vous le porter? Un seul numéro de téléphone pour toutes ces questions. 33 1 84 22 71 71, et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et en fin d'émission, on aura un reportage de Charlie Dupiot à Londres sur une agence de mannequins, une marque de vêtements qui utilise des mannequins normaux. Vous voyez à peu près ce que ça veut dire, des mannequins normaux ou pas, les filles?
Oui, comme vous et nous.
Exactement. Voilà. On en saura plus en fin d'émission. Et bien sûr, tous vos appels sur vos coups de cœur, sur la mode, sur le wax. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques réactions. Adilou, qui est à Yagoua, dans l'extrême nord du Cameroun, et il nous dit chez nous, au nord du pays, les femmes ne portent que le wax, parce qu'évidemment, c'est l'habit de qualité. Bourgeois N'Djamena au Tchad nous dit, maman, la première fois que j'ai entendu parler de wax, c'était en 1995, lorsque j'étais petit. Ma mère parlait de ça avec sa voisine. Elle disait que la femme qui porte le wax, c'est la plus riche, c'est celle qui a bien vécu. Et puis, il y a le commentaire de Barbara, qui est à Yaoundé, le wax urbain et moderne est de plus en plus prisé. par les jeunes, déclinés de toutes les manières possibles, bijoux, accessoires, chaussures, vêtements. Moi, dit Barbara, j'en porte quotidiennement, foulard, pantalon, jupe avec un chemisier. Il y a aussi le commentaire que j'aime beaucoup de Youssouf, qui est à Ziguinchor, en Casamance, dans le sud du Sénégal. Le wax est très joli, porté en chemise à manches courtes ou longues. La quasi-totalité de mes chemises, c'est du wax et les gens les adorent. La mode wax est compatible avec ce que nous portons habituellement. C'est la part de l'Afrique dans la mondialisation. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ?
Pas du tout, mais c'est pas grave. Ah bon ?
Et pourquoi ça, Marie-Jeanne ?
Parce que le wax n'est pas un produit africain, on le dit suffisamment. C'est un produit qui vient de Hollande. Il n'y a pas de créateur africain du wax, premièrement. C'est ça là aussi la difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de designer qui dessine les dessins du wax. La plupart du wax est fait en Hollande ou alors dans des usines qui sont en Afrique, mais qui appartiennent à des Hollandais. Donc en fait, on est en train de pousser un produit qui est complètement exogène et en faire un produit finalement
donc
culturel.
ça vous irrite ou pas?
Oui, ça vous énerve. Ça m'irrite parce que il y a une véritable créativité africaine qui existe, le pain tissé, vous avez le tissage, vous avez énormément de choses qui existent et qui sont en train d'être complètement étouffées par la communication du wax, alors que ces tissus ont une valeur ajoutée exceptionnelle. Le wax, la valeur ajoutée du wax, c'est la communication. Alors que quand vous parlez d'un pain tissé, que ce soit le bogolan, que ce soit le tchoup, le ndop, par exemple au Cameroun, ce sont des écritures. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour ne pas citer un très
des
bon
écritures
couturier...
Des écritures culturelles, ce que vous voulez dire.
Voilà,
ce
des écritures...
Ce n'est pas le wax, c'est ce que
voilà,
vous voulez dire.
Voilà, tout à fait. Et ça a une vraie identité, de même que la dentelle de Calais a une identité. Hein, de même que vous avez le lin de Normandie qui a une identité. Vous avez la soie de Lyon qui a une identité. Donc, ce que je veux dire, c'est que... ce n'est pas du bourrage de crâne, mais c'est un petit peu ça... Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, les grands couturiers occidentaux ne s'inspirent non pas du wax, mais de la tradition africaine. Et il y a un an et demi, une des collections les plus applaudies durant les collections de haute couture, ça a été la collection de Valentino, qui s'est complètement inspirée de la broderie du Burkina Faso. Il s'est inspiré de certaines techniques du Niger. Non, mais on
peut
avoir
ou quoi ?
Ah non, je dis pas influence. Parce que je dis influence parce qu'en fait, les créateurs africains n'ont pas non plus développé par rapport à leur culture, des choses très modernes. En fait, ils préfèrent travailler le wax parce que c'est facile. Le wax est toujours joli. Le wax est toujours joli. Il n'y a pas de wax moche.
Ça,
mais oui, voilà. Donc, en fait, ça rend presque les créateurs paresseux parce que finalement, vous avez une base qui est facile. Vous faites un petit vêtement et puis
bon,
ça marche.
C'est comme
quoi.
Le jean. C'est voilà, jamais raté. Voilà, c'est ça, jamais... finalement.
Donc, voilà,
c'est
tout à fait.
C'est l'uniformisation aussi, d'une certaine manière.
C'est l'uniformisation,
ouais, bah,
sauf
bien
que...
Vous avez bien lancé le débat, Marie-Jeanne. C'est bien. Bon, bah, écoutez, les auditeurs, c'est plus la peine de nous appeler si vous portez du wax.
Non, mais en fait, moi, je me replace dans un contexte culturel et historique et pas seulement mode.
C'est pour ça qu'on
mode.
Vous aime, Marie-Jeanne.
Voilà.
Vous avez tout à fait raison. 33 1 84 22 71 71, appelez-nous les voisins et les voisines, même sur la mode, on peut débattre.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Nos invités veulent réagir évidemment au coup de gueule de Marie-Jeanne Serbin-Thomas, mais évidemment aussi priorité aux voisins qui nous appellent. Elmer nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Elmer.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors vous portez du wax ?
Oui, je porte du wax.
Oui. Oui, c'est-à-dire ?
Allô ?
Oui, on vous entend, vous êtes à l'antenne en direct Elmer, vous avez la parole.
Oui, j'ai une chemise wax avec un jean et une basket. En fait, Emmanuel, ici, c'est maintenant la mode. Hein. À l'époque, ici à Libreville, on connaissait le wax, c'est lorsqu'il y a des mariages à la coutume.
Oui.
Lorsqu'il y a un mariage à la coutume, c'est là où tout le monde se met à wax et oui, on part au mariage. Mais de nos jours, à Libreville, dans les rues de Libreville, que ce soit jeunes, grandes personnes, ont adopté maintenant la mode du wax. Mm. Voilà.
C'est ça, donc le wax qui était un objet coutumier, finalement de coutume, se transforme pour être un tissu du quotidien.
Voilà, du quotidien.
Et de la ville.
de la ville aussi, ouais. Tranquillement. Ouais. Les gens partent au bureau en Pagne, en Wax. Et moi, ce qui était d'abord au départ pour des mariages à la coutume, pour des cérémonies et tout le reste.
Ouais. Voilà. Merci Elmer de nous avoir appelé. Aziwa veut pousser un petit coup de gueule de Lomé au Togo. Bonjour Aziwa.
Oui, bonjour Manuel.
Aziwa, vous êtes énervée par les prix du wax.
Oui, plus pour avoir un wax de qualité, il faut dépenser un peu plus de sommes. Et c'est pas n'importe qui aussi qui porte le wax. Mmh. Donc le wax, c'est un tissu de valeur chez nous ici à Lomé.
Ouais. Et donc, ça crée des frustrations de ne pas pouvoir acheter tous les wax que l'on souhaiterait acheter?
Oui, dans tous les cas, si tout le monde se débrouille pour avoir du moins un ou deux wax dans sa garde-robe, donc c'est tout de les femmes.
Oui. Alors forcément, c'est cher, Aziwa, je vais redonner la parole à Marie-Jeanne, c'est cher parce que c'est importé. Hein?
Alors, il y a deux problèmes. Il y a ce qu'on appelle le wax, en fait, qui est une technique, d'accord ? Et il y a ce qu'on appelle le tissu pagne. Le wax est une technique qui coûte assez cher parce qu'il y a un apprêt sur le tissu qui le rend brillant, qui le permet de durer plus longtemps. Et vous avez le tissu pagne aujourd'hui qui n'est pas cher puisqu'il vient souvent de Chine, qui sont des imitations. Donc si vous voyez beaucoup de gens qui portent du tissu pagne, souvent ce sont des tissus d'imitation qui ne sont pas chers.
Et comment la différence alors ?
En fait, la différence, c'est la qualité. En fait, on le touche parce que le wax, il est dur. Hein. C'est vraiment un tissu qui est
il
dur.
Il est très glacé.
Voilà. Alors que l'autre est plus souple, c'est-à-dire c'est une cotonnade plus souple qui dure moins longtemps.
Et c'est-à-dire qu'au bout de tissu moins épais aussi.
Voilà. En fait, c'est le même coton, mais c'est l'après qui fait que le tissu est épais. C'est pas forcément la qualité du coton. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on en voit beaucoup, c'est que les Chinois font des copies donc de wax, mais en coton.
Donc, font des copies de wax hollandais.
Ils font des copies de wax hollandais, bien sûr,
comme
ils font des
copies.
Voilà, qui sont fortes et ils les vendent beaucoup moins cher. Et parce que le wax coûte quand même très cher. Il faut compter parfois dans les 150 € les 3 mètres, les 3 yards.
Alors oui, du coup, il est plus facile à travailler le wax chinois, peut-être.
En fait, non, c'est surtout une question de pouvoir d'achat. C'est une question de pouvoir d'achat, alors que donc le wax chinois, en fait, entre guillemets, puisque c'est pas du wax, coûte à peu près dans les, les 10-15 €. Donc, ça fait quand même une marge très très importante. Hein.
On a une question de Jocelyne qui nous appelle de région parisienne, Aubervilliers. Bonjour, Jocelyne.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à tous. Donc je vous appelle pour justement ce sujet m'intéressait. Donc je suis déjà très contente d'être à l'antenne avec vous.
Eh bien nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous portez du wax, Merci. Vous aimez le wax, vous êtes fan de wax?
Alors je porte du wax, je ne suis pas encore fan, il y a encore un petit degré qui manque. Et c'est un tissu que j'aime beaucoup. Bon, je suis d'origine togolaise, donc c'est ma mère qui m'a initiée.
Oui.
Et c'est un tissu que je porte. Je le porte souvent en été, que je travaille, je couds un petit peu. Donc je fais des petites jupes.
On a un petit problème de ligne téléphonique. La question de Jocelyne, c'était évidemment les limites du wax quand on habite dans une capitale où il n'y a plus de soleil, il fait froid, il fait humide. Comment le porter en hiver, finalement ?
Très facilement, en fait, avec une veste. Moi, je porte du wax quand je ne suis pas avec en Afrique. Je n'en porte jamais en Afrique.
Look wax.
Voilà. Je trouve que ça fait un peu trop. Mm. Et puis souvent, ça grossit. Hein. C'est pas forcément très heureux. Mais je fais des coupures. C'est-à-dire, ça peut être un pull noir avec une jupe en wax et c'est très joli. Ou alors une chemise en wax et puis un pantalon noir ou une jupe noire. Enfin, on arrive très bien à couper puisque c'est du coton. Hein. Et puis on peut faire des superpositions. Il y a une styliste haïtienne qui travaille le tissu pagne. Je préfère dire le tissu pagne de façon merveilleuse. Elle le mélange avec du tartan, avec du velours, et elle s'appelle
tartan,
Stella Jean, et c'est magnifique.
On peut expliquer ce que c'est que le tartan ?
Alors, le tartan, c'est le tissu écossais. Voilà. Donc, elle fait des mélanges comme ça, et c'est magnifique.
Tissu africain, tissu écossais,
ça va très bien. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas une histoire de soleil, hein. C'est vraiment une histoire de dire, tu en as envie d'avoir un petit peu de couleur.
Mais ça apporte du soleil.
Ni de couleur de peau. ou pas?
Alors non, ben là il y avait un défilé à Ouaga, donc justement avec une asiatique qui portait du wax, et elle était sublime. Et il y avait une autre, une blonde aussi qui portait du wax et c'était magnifique. Donc ce n'est pas une couleur de peau, c'est une histoire de s'approprier des couleurs. Aujourd'hui Emmanuel, vous êtes splendide dans du rouge et du marron, dans du rouge et du marron, ce qui est assez inhabituel en France où en hiver on porte du noir, on a le look corbeau ou du marron, enfin ou des couleurs très sombres, comme alors qu'il fait déjà très sombre. Alors que là, en fait, vous êtes lumineuse parce que vous avez osé porter des couleurs très vives. Donc là, c'est aussi c'est un choix. Hein, donc, je pense que si les gens portaient davantage de couleurs, ce serait peut-être plus heureux.
Ah, ça, on est bien d'accord. Surtout ici, à Paris. Chaillet Chénin, alors vous préparez l'ouverture de ce site qui était d'abord un blog pendant 6 ans, qui marchait très, très bien. Nothing but the wax, rien que du wax. Ça parle de mode, ça parle de beauté africaine. Ça va bien au-delà du wax. Mais déjà, comment vous réagissez par rapport à ce que nous disait Marie-Jeanne Serbin-Thomas sur ce produit importé, finalement, qui donne une illusion d'africanité à l'Afrique, si j'ai bien résumé.
Oui, c'est ça, oui. Ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. Je pense que le wax, aujourd'hui, cristallise tellement de choses, à la fois négatives comme positives. Et en tout cas, pour ma part, je ne peux pas avoir un discours tranché sur le wax. Je pense que aujourd'hui, c'est clairement un produit mondialisé, globalisé. Je dirais même qu'on peut dire qu'il est rentré dans la pop culture d'aujourd'hui, puisque tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est, tout le monde le porte. Vous l'avez demandé tout à l'heure, est-ce que c'est une question de couleur? Je ne pense pas, puisque...
Couleur et graphisme, en tout cas. C'est ce qui séduit.
C'est ce qui séduit, mais pour moi, aujourd'hui, le wax fait partie du quotidien des Français. Et parce que justement, il s'est mondialisé, s'est globalisé, à la fois avec le développement de tout cet écosystème de marketplace, de e-shop en ligne, de pop-up store. Rien que dans quelques jours, début décembre, il va y avoir 3 pop-up stores le même jour.
C'est quoi des pop-up stores?
C'est des magasins éphémères.
C'est des petites boutiques éphémères. Non,
oui, d'accord. Et alors?
Et en fait, il suffit même de regarder la presse. Moi, j'ai jamais vu autant d'articles dans la presse traditionnelle sur le wax. Et il suffit également de sortir, d'aller dans des boutiques. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, le Bon Marché a fait un partenariat avec la marque Maison Château Rouge. Il y a eu le salon Who's Next qui a fait l'année dernière.
Maison Château Rouge, c'est intéressant parce que Château Rouge, c'est vraiment un quartier
très populaire,
parmi d'autres, mais un quartier populaire africain à Paris. Et maison, c'est un mot maintenant que l'on retrouve pour donner finalement un sentiment de marque de luxe, qui est un peu un renouveau d'utilisation de ce mot pour montrer la tradition, le côté,
savoir-faire.
Le savoir-faire et le côté ancien d'une marque. Donc, c'est vrai que là, il y a quelque chose de très contrasté dans le choix de cette marque Maison Château Rouge.
Oui, je pense que c'est un clin d'œil, c'est humoristique.
Tout à fait.
Je pense que ça va au-delà de l'humour. Je pense que quand on dit Château Rouge, pendant longtemps, c'était associé à une image très négative. Et moi, lorsque je vois les valeurs que Maison Château Rouge dégage, on est quand même dans une dimension, on veut redorer l'image d'un quartier, on veut aussi montrer la créativité d'une certaine jeunesse qui transcende en fait le wax pour proposer d'autres choses.
Vous avez dit dans la presse que vous aviez envie de monter ce site internet, ce média de mode très largement inspiré par le continent africain, Nothing But The Wax, parce que vous n'arrêtiez pas de voir des gens dans la rue que vous ne retrouviez jamais dans les médias, dans les journaux de mode.
C'est vrai.
À quoi vous pensiez?
C'est simple, je prends mon propre cas personnel, je me rends compte que je ne lis pas beaucoup la presse française en fait. Je ne trouve pas assez de contenu qui m'intéresse.
C'est la même chose dans le
même
reste
chez Brune et Gazelle Magazine.
c'est la même chose dans le reste de la presse internationale sur la mode.
Non,
ça ne correspond pas à la rue, aux gens de la rue, à la créativité de la rue.
Bah, je trouve que, par exemple, quand on parle de wax ou de mode africaine dans la presse traditionnelle, on reste quand même dans des choses très esthétiques. Et pour moi, en fait, ça va au-delà de l'esthétique. Il y a une génération de jeunes créateurs en fait, qui racontent des histoires à travers leurs créations, qui mettent en avant leur héritage culturel. Et pour moi en particulier, qui ai envie d'en savoir un peu plus sur mes origines, sur mon héritage culturel, je trouve qu'ils apportent un plus et qui est non négligeable.
Ouais. Et on retrouve ça dans les témoignages d'ailleurs. Très jeune génération sur le wax. Vous restez avec nous, tendance mode, tendance wax, les voisins, les voisines. Appelez-nous pour nous dire quelle est la place de ce tissu imprimé dans votre vie. Est-ce que c'est compatible avec la mondialisation? 33 1 84 22 71 71.
À l'occasion du sommet de la...
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, tout sur la mode, les tendances de la mode. On en discute régulièrement avec nos invités Marie-Jeanne Serbin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune, Karima Peroni pour le magazine Gazelle, davantage centré sur la mode orientale, et Chaillé Chénin, Nothing but the wax, rien que du wax. C'était un blog pendant 6 ans, ça va devenir un média à part entière, pas centré seulement sur la mode finalement, mais c'est tout un état d'esprit, c'est ce que vous nous disiez. Chaillé Chénin. Tiens, je vais vous lire un commentaire d'auditeur qui va vous inspirer, qui va vous intéresser, Chaillé Chénin. Nuria de Goma nous écrit de l'Est de la RDC. La mode est synonyme de fric. On peut adorer être toujours au top, mais pas sans fric. C'est compliqué de parler de mode chez moi, surtout en pleine crise financière. Quand on aura tous un bon boulot, la mode prendra son ampleur. Je trouve que son message est quand même très vrai, non ?
Son message
plus que jamais même.
Son message est très vrai et très fort, et ça pose aussi la question de la professionnalisation de la mode africaine aujourd'hui. Et je trouve qu'on est quand même sur un chemin qui est positif, parce que il y a un engouement qui est certes présent des auditeurs, de la clientèle. Il y a aussi un vrai intérêt des industriels. Et moi, je trouve qu'avec ce qui se passe, comme des interventions du Who's Next, du Bon Marché, c'est des signaux un peu forts quand même pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe.
Oui, mais en même temps, la professionnalisation de la mode sur le continent africain est extraordinairement et tristement à l'image aussi de la façon vertigineuse dont les inégalités se creusent. C'est-à-dire que tout se fabrique maintenant beaucoup pour les très riches.
Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que quand vous payez déjà un tissu à 150 € les 3 mètres, ça veut dire que le vêtement va vous revenir à peu près à 300 €. 300 €, c'est peut-être le salaire d'un ministre dans certains pays. Donc, effectivement. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce jeune homme de Goma. Dans la mesure où la mode s'inspire beaucoup de la rue. Et la rue, même dans les fripes, regardez ce qui est intéressant. Voilà. Prenons l'exemple des sapeurs. Les sapeurs, en fait, ne s'habillent pas avec des tissus africains. Ils s'habillent dans des fripes. Et leur travail, justement, c'est de chercher dans ces fripes les vêtements les plus extraordinaires, les mélanges coloriels les plus toniques. Donc, et parfois, avec très peu d'argent, ils arrivent à faire des miracles. Et c'est ce miracle qui est intéressant. Parce que quand on voit l'origine sociale des sapeurs, ce sont des gens qui viennent de milieux très défavorisés. Et tous les reportages qu'on a vus sur eux, en général, ils sont dans des petites cases. Mais vous avez cette part de couleur, ce rêve qu'ils apportent avec leurs vêtements, qui est extraordinaire. Donc, la mode n'est pas forcément une question de moyens, c'est plutôt une question d'imaginaire et d'audace.
Et d'idées.
Et d'idées, bien sûr. Et la mode s'inspire de la rue. Et la rue, en fait, c'est ce mélange social, c'est ce mélange culturel, c'est ce mélange d'idées, c'est ce brassage. Et ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat. Un petit pagne avec des tongs. Écoutez, ça peut être très, très élégant. Ça dépend de la façon dont on le porte. Et des tongs, vous pouvez en avoir à même pas un euro.
C'est aussi ce que les créateurs traquent dans les rues, d'ailleurs.
C'est ce qu'ils font. C'est
de
ce qu'ils
New York à Cotonou.
Oui, tous les cabinets de style envoient donc leurs bookers, leurs chercheurs, dans les capitales, dans les marchés, pour voir ce qui se passe.
Carrément.
Quand on n'a pas d'argent, effectivement, on peut avoir les idées. Et à l'heure d'Internet, il y a plein de blogs et des chaînes YouTube qui proposent des do-it-yourself. On varie les vêtements, on leur donne des secondes vies, des troisièmes vies, des quatrièmes vies, et c'est super intéressant de voir tout ça sur Internet. Ça rend en tout cas très bien visuellement. Donc proposons à ce jeune homme d'aller plutôt, d'aller plutôt sur Internet s'inspirer.
Chaillé Chénin, vous allez solliciter, vous le faites déjà, des contributions des internautes justement pour rendre compte de cette mode de la rue avec toutes ses influences, le wax parmi d'autres.
Bien sûr. Pour le moment, c'est vrai qu'on écrit nous-mêmes les articles, mais dès le lancement du site, on espère avoir trouvé des contributeurs locaux qui veulent apporter leur point de vue, leur perspective sur un événement, sur une tendance qu'ils voient dans leur quotidien.
Ouais. Alors, dans une autre vie, vous étiez contrôleur de gestion dans le secteur du luxe, il faut le dire. Alors, oui. Ça explique aussi le souci du détail hein, qu'on va retrouver sur le site internet. Et pourquoi vous avez quitté ce secteur-là ?
Alors, j'ai fait du contrôle de gestion et après, j'ai fait de l'audit financier. Pourquoi j'ai quitté ce secteur-là ? Parce qu'en fait, à un moment donné, je ne m'y retrouvais plus en termes de conviction, en termes de valeur. J'ai l'impression de faire quelque chose qui ne m'apportait pas tant que ça en termes d'épanouissement.
Et qu'est-ce qui vous démangeait, alors, au point de créer Nothing But The Wax ?
En fait, je dirais que le déclic, c'est lorsque j'ai commencé à piger en tant que journaliste freelance, à me rendre compte que finalement, ce que j'écrivais pouvait avoir un impact sur les gens et que justement, les gens avaient besoin d'histoires nouvelles, en fait. Donc, ça m'a boosté pour me dire, bon, bah, c'est maintenant, faut le faire.
Aujourd'hui, le site qui va démarrer, qui existe déjà sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, etc., c'est clairement défini comme un média générationnel. Oui. Alors, en quoi vous êtes une fille de votre temps aujourd'hui, franco-ivoirienne ?
Bah, c'est simple. Je trouve que notre génération, elle est en train de faire énormément de choses, que ce soit dans la mode, dans l'art, dans la littérature. On a envie de s'exprimer, on a envie d'assumer, de célébrer notre double identité. Et surtout, on a envie de porter une autre perspective du monde, en fait, tout simplement. Tout à l'heure, vous pointiez du doigt ce goût pour... pas le luxe, mais les choses léchées. Je pense que c'est aussi... un des attraits, en tout cas une des particularités de notre génération, c'est que comme on a manqué de représentation, on a créé nos propres visuels et quand on regarde, ne serait-ce que les lookbooks des marques africaines ou tout simplement les blogs de blogueurs africains, il y a une esthétique qui est étonnante, ouais. Qui est remarquable même.
Vous avez l'ambition plus tard de créer votre propre marque ou peut-être des collections pour certains créateurs ?
Non, aujourd'hui, l'ambition n'est pas de ce côté-là.
Non, vous voulez proposer un regard, en fait. Hein.
Oui, clairement, avec le blog, on va continuer.
C'est vraiment les blogueuses.
Et vous, en tant que journaliste, alors, Karima Peroni, en tant que journaliste spécialiste de mode, notamment, alors, d'une mode métissée, double culture aussi, clairement, oui. Européo-orientale, je ne sais pas comment il faut dire.
Oui, c'est ça, orientale, oui. Oui. Assumons. Oui, il y a aussi des tendances, mais c'est vrai qu'on n'a pas, j'étais en train de réfléchir depuis tout à l'heure, dans la mode orientale, est-ce qu'on a comme ça un tissu emblématique ? Non, en France. Franchement, clairement, c'est plutôt des mélanges de tissus pour ce qui est la mode orientale, on l'utilise beaucoup dans les mariages, les célébrations. Donc, on retrouve les paillettes, les strass, etc. Même si là, on travaille en ce moment sur le hors-série mariage et il y a des tendances qu'on retrouve aussi, c'est la tendance du vintage.
Alors, à Gazelle, hein, il faut savoir qu'on travaille 365 jours sur le hors-série mariage.
mais c'est vrai, en fait, on a un mensuel qui est représentatif un petit peu de tout ce qui se passe dans l'année. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé autour des thématiques du vintage. Donc, on retrouve aussi tout ce qui va être autour de la dentelle qui revient énormément et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les codes de la mode africaine en général. De toute façon, la dentelle, ça couple très bien à plein de choses. Et effectivement, donc, du coup, on retrouve des styles qui sont un peu particuliers comme le vintage oriental. Donc,
c'est quoi le vintage oriental ?
C'est ce mélange, en fait, on retrouve donc le côté un petit peu hippie avec le côté floral, avec de la dentelle et puis ces petites touches orientales où il va y avoir du henné ou bien on va poser des strass ou des paillettes pour donner justement cette double teinte, cette double culture dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, l'idée, en fait, en mode, pour toutes les influences, c'est vraiment l'idée encore de s'amuser et d'oser, en fait.
Et avec un point commun, je dirais, entre tout ça, c'est quand même le mode de vie urbain, finalement, aujourd'hui. Hein. Le wax, c'est par définition aujourd'hui un tissu qui se réinvente parce qu'il est très urbain.
Non, parce qu'en fait, le wax, c'est Il y a plusieurs façons de porter le wax. Le wax peut être un outil communautaire, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez des funérailles, quand vous avez un mariage, quand vous avez un baptême, il est de tradition d'avoir que tout le monde porte le même wax, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier à travers le vêtement que l'on porte, par sa couleur, par son motif, parce que, par exemple, les tantes ont décidé que voilà, on va porter ce wax. Donc, il y a cette tradition d'avoir un wax qui soit comme un petit peu comme un signal. Voilà, si on porte ce vêtement, on sait qu'on a été malheureux, ou alors que le pape est passé, ou alors que le président est mort, ou alors que ça a été la fête du travail. Donc, les pagnes qui ont comme ça une vocation d'être la représentation d'un moment précis dans la vie des gens, ça existe dans les villages. Alors, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que des jeunes prennent ça et puis le modernisent, en fait, c'est ce qui est intéressant. Et puis, vous avez aussi donc des gens qui, pour les habits d'apparat, mettent du wax. Et pour les habits, par exemple, fonctionnels, daily to wear, en fait, vont porter du prêt-à-porter. Mais il faut voir aussi que, par exemple, il y a des pays comme le Cameroun qui ont une forte tradition de vestimentaire. Moi, je suis allée à des soirées au Cameroun où j'étais la seule habillée avec un wax ou alors avec un pagne. Et que toutes les femmes étaient habillées comme si elles étaient à Hollywood. parce que le beau, parce
comment,
que l'élégant.
Comment être ridicule en Afrique en étant habillée à l'africaine, finalement, c'est ça, c'est
ce oui, que voilà, en fait, on me demandait si j'étais américaine. Parce que, bon, au Gabon, c'était la même
exotique,
chose.
Exotique, en fait.
Oui, j'étais très exotique. Incroyable. Qui sait ça. Donc, au Gabon, c'était la même chose. Je suis allée à des manifestations où toutes les femmes faisaient leur shopping, en fait, bon, à Paris, et voilà. Donc, et on ne portait pas du tout de
le cri du cœur de Jason, qui est à Kinshasa, qui va vous faire plaisir. Marie-Jeanne, qui nous écrit le message suivant. Grand regret dans l'histoire de ce fabuleux tissu, c'est que jusqu'à présent, la Hollande demeure le pourvoyeur et que nos industriels africains n'arrivent pas à la concurrencer, alors que nous sommes les principaux, sinon les seuls consommateurs. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a toutes les diasporas africaines et que c'est réapproprié aussi par d'autres types de public, non, tout de même.
Alors Emmanuel, on peut regretter, par exemple, il y a une très grande maison de wax qui fête ses 170 ans bientôt. Cette maison, en 170 ans, elle n'a jamais créé une école de couture, elle n'a jamais créé une usine sur place. Il n'y a pas du tout de transmission. Donc, par exemple, au Togo et au Bénin, il n'y a pas d'usine de textile qui ont été. On aurait pu imaginer que cette maison fasse un petit peu comme Boussac qui a lancé Christian Dior, c'est-à-dire qu'il puisse lancer aussi.
Il y a des maisons qui tissent du pagne au Togo tout de même.
Ah non, plus du tout. On tisse du coton blanc. Non, absolument pas. Vous avez des usines qui font du coton blanc et ce coton est exporté en Chine.
C'est vrai que la maison dont vous parlez n'a pas créé d'école, mais depuis 2-3 ans, elle fait énormément d'initiatives en faveur de la création africaine en créant des bourses d'émergence pour accompagner des jeunes stylistes.
En 170 ans, c'est pas beaucoup.
C'est sûr, mais faut un début à tout. Je pense que c'est comme le wax, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière le wax, il y a autre chose, il y a d'autres tissus traditionnels africains qui méritent d'être vus. Et c'est vrai qu'il faut commencer petit à petit.
J'allais poser la question, qu'est-ce qui fait courir le wax? Non, c'est pas ça. C'était pas du tout la question que je voulais vous poser, Karima Peroni, mais dans le magazine Gazelle, il y a tout un dossier sur la tendance du running. Alors vraiment une tendance très urbaine aujourd'hui. D'ailleurs, on fait des vêtements de sport avec du wax. Hein, j'en ai vu des jogging.
Oui, effectivement, le running, c'est tendance. Finalement, c'est une tendance aussi qui revient, parce qu'on sait que les tendances sont un éternel recommencement. Et donc, effectivement, le running, on le retrouve partout. Donc là aussi, sur les réseaux sociaux, il y a des modes qui
Qu'est-ce
sont...
Qu'est-ce que c'est
des... Le running, c'est le jogging, pardon.
Ouais, c'est du
le
sport.
Le running, c'est du jogging. C'est courir, tout simplement. Alors, il y a des...
Donc, c'est le sport gratuit par excellence, il faut le préciser, en principe.
Voilà, et puis, bon, généralement, on a un petit cours d'eau, ça sera encore mieux. Un petit canal pas loin, matin.
Ouais. Alors, dans les villes africaines sans trottoir, c'est pas facile, à part la corniche de Dakar, mais encore qu'il y a des villes africaines où il y a beaucoup plus d'espace que dans d'autres.
C'est surtout très, très efficace. Et alors, aujourd'hui, en plus d'avoir des sites qui sont dédiés au running au niveau de la mode, puisque des tissus vont être élaborés avec effectivement des systèmes d'aération particuliers. s'habiller pour pas transpirer, pour pas avoir froid, pour pas avoir des chocs thermiques, etc. En plus de ça, il y a vraiment autour des chaussures, c'est incroyable aussi la variété d'éditions même limitées qui sont proposées et qui sont aussi très très belles. Donc aujourd'hui, on peut
ça a donné un souffle de confort dans la mode finalement.
Oui, enfin. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, les runneuses sont des modeuses. On peut à la fois être des vraies sportives et aimer le sportwear tout en ayant des touches glamour et aimer être coquette. Donc ça, c'est vraiment ce qui change aujourd'hui dans la vision du sport.
Vous restez avec nous, mesdames. Dans quelques instants, on donne la parole à une créatrice de mode un peu particulière que Charlie Dupuis a rencontrée à Londres. Ça sera juste après Midnight. Connaissez les filles Midnight Ravers, Coroni Folie?
Du tout.
Et ben, c'est une combinaison électro-mandin créée entre Bamako et Lyon. Trois Maliens, trois Français qui font ensemble de la musique, dessins, vidéos. C'est un peu à l'image du wax, hein, finalement. C'est ce qu'on disait, soluble dans la mondialisation. Et maintenant, une vraie question. La mode peut-elle être féministe? C'est en tout cas l'idée d'une marque de vêtements qui s'appelle Birdsong, qui a été lancée il y a 2 ans à Londres. La marque vend des vêtements et des accessoires fabriqués avec l'aide d'associations de migrantes, de femmes retraitées sans moyens, mais surtout... Exit les top modèles, celles que vous montrez dans vos magazines et qui sont sublimes d'ailleurs, de femmes très belles mais très squelettiques, très pâles.
Pas nous, elles ne sont pas squelettiques.
Non, elles ne sont pas squelettiques, mais elles sont très belles quand même. Hein. Elles sont quand même sélectionnées sur des critères de beauté. La marque fait poser là, au contraire, des femmes dites normales. Ça ne veut pas dire des laiderons, mais vraiment normales. Certaines avec des poils sous les bras, d'autres de l'acné. Charlie Dupuis a rencontré l'une des deux cofondatrices de la marque, Sophie Slater, qui est blonde, fluette, à franges, avec des grands yeux verts. Et pour nous, elle décrit les différentes filles normales qui posent pour ses collections.
Là, c'est une photo de Muscle. On trouvait ça assez révolutionnaire de la faire poser en maillot de bain, car dans la plupart des publicités pour maillot de bain, les femmes ont souvent une poitrine assez plate. Notre mannequin, elle, on peut dire qu'elle a des formes. Elle est ronde. Et là, on voit Mel, elle mesure 1m57. Elle est beaucoup plus petite que la plupart des mannequins que l'on voit généralement en photo sur la toile. On a décidé d'en jouer et de lui faire porter une robe très longue qui lui va bien pourtant.
Et on voit que cette mannequin a aussi des boutons sur certaines photos.
Notre mot d'ordre a toujours été « jamais de Photoshop », ce logiciel qui retouche l'image. On peut modifier la lumière ou la couleur de l'arrière-plan, mais on ne retouche aucune de nos photos. Hors de question de modifier l'apparence des mannequins. Et puis, nous ne sommes pas opposés au maquillage en soi, mais on ne pense pas qu'il soit nécessaire. On ne veut pas perpétuer un idéal de perfection.
Elles n'ont pas non plus de coiffure très élaborée.
Souvent, on les photographie telles qu'elles nous arrivent, telles qu'elles sont quand elles passent la porte. On ne les recrute pas dans la rue au sens propre du terme, mais ce sont surtout des femmes qu'on rencontre à des événements ou avec qui on prend contact sur Internet.
Sur ces photos, elles ne sont pas forcément très belles.
Non, et aucune n'a de contrat avec une agence. Certaines ont déjà été mannequins ou essayé. Moi-même, pour parler de mon expérience avec ce milieu-là, quand j'étais adolescente, j'ai eu un contrat de mannequin dans une agence basée à Londres. Là-bas, on prend régulièrement vos mensurations, on vous compare avec les autres. En fait, ils écrivent toutes vos mensurations et celles des autres mannequins de l'agence sur des cartes qu'ils affichent au mur. Je me souviens m'être sentie grosse par rapport aux autres, alors qu'à l'école, on me disait que j'étais très maigre, que je devais manger plus et les médecins s'inquiétaient de ma minceur, même si c'était tout simplement mon métabolisme qui était en cause. Et puis j'allais à Londres, dans l'agence, on me disait « Ah oui, tu es parfaite, c'est exactement ce qu'on cherche ». On me disait « Reste comme tu es », alors que je ne pouvais pas garder ce corps en devenant adulte, ce n'était pas réaliste.
Et combien de temps ça a duré ce contrat ?
Près de 2 ans. Il s'est arrêté quand j'ai eu 16 ans et que j'ai commencé à avoir quelques formes. Je pense que cette expérience a eu un impact néfaste sur moi et j'ai dû faire tout un travail pour me réconcilier avec mon corps, être plus à l'aise. Mais cela a aussi du bon, on peut dire, puisque cette immersion dans l'industrie de la mode m'a inspirée ensuite pour créer Birdsong avec l'idée d'aider les femmes à se sentir mieux et à s'accepter.
Hello.
Hi.
Daniela Gale, vous êtes mannequin pour la marque Birdsong. Vous aviez déjà travaillé comme mannequin ?
Yeah.
Oui. Alors, comment me décrire ? D'une mère bulgare et d'un père nigérian. Quand j'étais adolescente, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai été repérée par une agence de mannequins là-bas pendant un festival. Mais lors de mon premier vrai entretien à l'agence, ils m'ont dit que j'étais en surpoids et que mes hanches étaient trop larges. Ils ne devaient pas trouver jolis les fessiers rebondis comme le mien. J'ai dû lutter pendant longtemps pour accepter mon physique parce qu'en grandissant, je n'ai vu que très peu de femmes de couleur ou métisses dans les magazines. Je pense qu'on est vu comme exotique, parfois fétichisé, mais les rares qui sont représentées sont aussi très minces, très jeunes. Et même dans certaines revues, leur peau est éclaircie. On pourrait parler d'apprivoisement. Moi, en tout cas, j'ai longtemps essayé de paraître plus blanche que je ne l'étais. Mais cela a changé depuis que je travaille avec Birdsong. Au début, j'avais du mal à regarder ces photos de moi qui n'étaient pas retouchées. Puis j'ai appris à me voir, voir à quoi je ressemble vraiment. La mode fait ou devrait faire rêver. Et pour moi, il y a plein de façons de rêver.
Sophie Slater, quel impact vous pensez que ces campagnes avec des mannequins normales ont sur vos ventes ?
Nous venons de clore notre campagne de financement et 330 investisseurs ont rejoint le capital de notre entreprise, dont de vrais actionnaires. Nous avons aussi sur les réseaux sociaux une communauté de 10 000 personnes autour de notre marque et je pense que c'est une preuve que les gens ont accueilli notre marque de façon positive. Et bien sûr, on veut devenir un acteur plus gros sur le marché. Il y a vraiment un mouvement, un élan sur ce sujet en ce moment à Londres. Je pourrais citer 4 ou 5 marques qui mettent en avant des mannequins d'âge différents, des profils de femmes qu'on n'a pas l'habitude de voir.
C'est un argument marketing aussi aujourd'hui, la diversité.
Oui, et cela s'inscrit dans la tradition. On a toujours utilisé le corps des femmes pour vendre des produits.
Vous aussi, on pourrait vous reprocher d'utiliser ça comme un argument marketing.
J'aimerais penser que ce qui nous pousse à faire appel à des mannequins normales dans toute leur diversité et qu'on recrute aussi parmi nos amis, c'est une vraie envie de les représenter, de faire connaître ces physiques-là et de ne surtout pas les traiter comme une tendance qui viendrait et repartirait. 80% des travailleurs du textile dans le monde sont des femmes et 90% des femmes au Royaume-Uni se disent insatisfaites d'une façon ou d'une autre de leur corps. Et j'imagine que c'est pareil dans la plupart des pays. Les femmes ont toujours eu une relation particulière, presque intime avec la mode et c'est pour ça que cette question de leur représentation est d'abord pour moi une question féministe, comme tout ce qui concerne les femmes au quotidien. Et nous ne sommes pas comme ces gens qui, en salle de réunion pour leur boîte, réfléchissent à quelle sera demain la meilleure façon de vendre.
Alors, que vous inspire cette marque Birdsong et c'est représenté par des mannequins normales
Oh, plein de choses. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très justes. Alors, j'approuve totalement le fait que les photos ne soient pas retouchées sur Photoshop, parce qu'effectivement, il y a toujours ce danger de la représentation auprès de la jeune génération. Et il faut absolument être au plus près du réel. Maintenant, effectivement, il faut faire attention entre la différence qui peut être conçue comme un objet marketing et la différence dans cet objectif de globalisation et de représentation. En fait, effectivement, moi, ce que j'ai l'impression sur certaines marques et certaines campagnes publicitaires, que la différence devient, comme ça a été très justement dit, un objet exotique, voire fétichisé. Et c'est ce qu'invoque. Alors, on a parlé effectivement
de... C'est pas le cas chez vous, hein, pour le magazine, finalement.
Alors, nous, c'est un autre problème. Alors, dans la communauté maghrébine, on n'est même pas représenté. Il n'y a aucune mannequin d'origine orientale arabe, disons le mot, donc elles sont absolument inexistantes.
Ce qui veut dire que les filles que vous faites travailler ne travaillent pas ailleurs ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, les filles qu'on fait travailler chez Gazelle, on a eu un problème au début parce qu'on avait un problème de représentation dans les agences de mannequins. Il n'y avait pas du tout de femmes d'origine maghrébine. Ou quand elles étaient, on cachait leurs origines, c'est-à-dire qu'on disait qu'elles étaient latino ou espagnoles. Donc, du coup, on a pris le parti chez Gazelle de faire appel aux lectrices. Donc, en fait, ce sont vraiment les lectrices qui posent pour le magazine.
Ah oui.
Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vraiment, on n'est pas du tout sur le mannequin cliché, le mannequin squelettique. Alors, nous, pour le coup, voilà, c'est pas du tout un objet marketing. La différence, c'est... Nous, Enfin, pour nous, c'est même pas une différence. C'est-à-dire que quand on prend la femme dans sa globalité, qu'elle soit ronde ou qu'elle soit...
Il n'y a pas de stratégie. Il y a un impératif qui est de montrer des vêtements sur des filles qui donnent
envie. Dans l'objectif, vraiment, de la représentativité. C'est-à-dire qu'il faut que la lectrice se retrouve dans les mannequins, alors que dans certaines campagnes publicitaires aujourd'hui grands médias, effectivement, comme on prend le nom de, alors j'ai plus le nom de cette mannequin qui a le vitiligo et qui effectivement elle est très populaire, on la retrouve partout, mais le problème c'est que moi je trouve que elle est mise en avant vraiment comme une différence et donc du coup ça devient un objet marketing à part entière.
Marie-Jeanne Sermin-Thomas, il nous reste quelques secondes.
Oui, je pense qu'en fait c'est un problème qui est très européen. Et que les vrais influenceurs, malheureusement, sont encore fascinés par la maigreur, que les gens dont on parle, comme Karine Roitfilm, comme Lagerfeld, vraiment les gens qui pourraient faire changer les choses, pensent à
parce
un marché.
Parce qu'ils ont les plus gros budgets, oui.
Voilà, parce qu'ils ont les plus gros budgets, et parce que ce sont des marchés aussi.
Mais Internet voilà. Est en train de bousculer tout ça, chez Yishena.
Oui. Espérons.
On est quand même dans la tendance du body positive, et c'est important qu'il y ait... de la représentation dans toute sa diversité, en fait.
Et ça sera aussi une ligne de conduite pour le site qui va naître dans quelques semaines chez Yishena pour vous.
Oui, Nothing but the wax. Sûr. D'ailleurs, la plupart des photos qu'on a prises, c'est avec des lectrices qui...
Bon, voilà, donc appel à candidature si vous voulez devenir voilà. Mannequin pour le Nothing nouveau média wax, de ouais. Mode Nothing but the wax à retrouver, donc, d'ailleurs, qui est en train, dans le modèle économique, qui est en train de naître grâce à du financement participatif. Oui. Merci à vous, Marie-Jeanne Sermin-Thomas pour le magazine Brune et Karima Peroni pour le magazine
merci,
Gazelle.
Journée.
Merci les voisins et les voisines et toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, le harcèlement sexuel au travail, un sujet d'ailleurs que vous traitez dans vos médias respectifs. Mesdames, un sujet encore trop souvent tabou. On a besoin de vos témoignages. 33 1 84 22 71 71.
RFI Musique, c'est Swing.